Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Marc Lambron de l'Académie française. Merci d'être là, tous les deux. On a appris ce matin la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle à l'âge de 102 ans. Un homme qui a vécu à l'ombre d'un grand chêne. Que peut-on en dire aujourd'hui si ce n'est que c'est un de Gaulle qui disparaît et qui lui ressemblait beaucoup? On était toujours frappé quand il apparaissait à la télévision par la ressemblance avec son illustre papa.
Dur d'être de Gaulle. Ça n'a pas été facile, parce que dès l'origine, son père ne voulait pas être taxé de favoritisme, ce qui fait par exemple que lui qui avait fait une belle guerre, qui avait été blessé, n'a jamais été compagnon de la Libération. Alors on le surnommait Sosthène, c'était un homme... Alors, au demeurant...
Pourquoi Sosthène ?
Je ne sais pas, ça venait du calard enchaîné, je n'ai jamais su. Cela dit, on voit que l'allongement de la durée de la vie existe, puisque le général de Gaulle est mort en novembre 70, il allait avoir 80 ans, quelques jours plus tard, et Sosthène disparaît à 102 ans. Je l'avais rencontré une fois, et savez-vous de quoi m'avait parlé le fils du général de Gaulle ?
Dites-nous.
De Vichy. Car pendant la guerre, il avait entendu s'était fait une montagne de ce mot, de ce nom, le régime de Vichy, le régime de Vichy. Et après la guerre, il est allé voir ce qu'était cette ville de l'Allier, et il avait trouvé que c'était un peu chiche par rapport à l'importance que ce nom avait pris dans l'histoire contemporaine de la France.
Non, moi, ce qui m'a frappé, je l'ai déjà rencontré assez rapidement. J'avais trouvé une grande douceur dans la personnalité. Effectivement, un homme qui a vécu dans l'ombre, qui n'a pas été tellement reconnu par son père. Il a quand même, comme l'a dit Marc, fait une belle guerre. Il y a juste une phrase dans les mémoires où il évoque, le général, que son fils était dans la deuxième DB. Donc, c'est quand même pas beaucoup pour une belle carrière militaire, la navale. Il est en 43 avec lui. Il a traversé la guerre et à côté de son père. Et ensuite, il a perpétué sa mémoire. Et ça, c'est assez intéressant sur, en général, les enfants de héros qui intériorisent finalement que leur père ou leur mère était tellement supérieur que leur propre vie leur est dédiée. Et ça existe dans de nombreux cas. C'est assez touchant, finalement, malgré les qualités intrinsèques du personnage.
Il partageait un trait avec son père, c'est l'humour, parce que le général de Gaulle en avait beaucoup, alors souvent de manière assez glaciale, et il y avait l'œil qui frise, et c'était un homme amusé, qui je trouve avait trouvé la juste distance avec la légende dont il procédait, et qu'il a néanmoins honoré, puisqu'il a écrit des livres tout à fait...
À la mémoire de son père,
voilà.
Bien sûr.
Ce qui est étonnant, c'est que tout le monde s'est approprié la mémoire du général de Gaulle et l'a revendiqué haut et fort, et qu'en fait, celui qui en était le garant était un silencieux.
Ou en tout cas, il n'était pas du tout sur le même registre. Hein. Il a fait de la politique, il a été sénateur, il a été, mais il s'est pas présenté comme l'héritier. C'est vrai, il n'a jamais essayé de profiter de ce statut. Et il y en a qui auraient pu, effectivement. Mais une forme de modestie, d'humilité, qui était assez touchante.
Est-ce que vous pensez...
Au fond, il y avait aussi un drame dans la famille, c'est Anne. C'est la sœur handicapée qui meurt à la fin de la guerre.
Il y a une très jolie photo sur Internet du général de Gaulle sur une chaise longue avec Anne dans les bras,
voilà,
sur une plage.
Vous connaissez cette phrase à la fois terrible et magnifique. C'est du Jean Racine, après les obsèques de sa fille, auprès de laquelle il s'est fait inhumer. Maintenant, elle est comme les autres.
Est-ce qu'on peut faire une analogie entre la mystique gaullienne et la façon dont Emmanuel Macron a voulu savoir comment l'Assemblée nationale allait dire non à Vladimir Poutine ?
Alors, je crois que Macron...
Il va très loin.
Ça, c'est une sacrée transition. Je prends des risques.
Plusieurs choses. D'abord, on voit bien que Macron, en Europe, ne veut pas être Daladier. Et qu'à l'intérieur, il veut obliger les forces politiques à se compter. Et si on veut aller vite, on pourrait dire que LFI, aujourd'hui, est pro-Poutine et pro-Hamas, et que le RN est pro-Poutine et anti-Hamas, a priori. La Russie ayant servi de banquier. Alors, il s'est quand même passé quelque chose hier. C'est que, certes, le RN s'abstient, mais... Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a un tweet injurieux pour Macron de Medvedev, et que Bardella a blâmé ce tweet.
Donc, et Marine Le Pen aussi.
Et Marine Le Pen. Donc, il y aurait comme un jeu ou une sorte de double jeu qui consisterait quand même à lever les soupçons sur la poutinophilie du RN. Le RN tchernobylisé politiquement chercherait sa décontamination, en quelque sorte.
C'est pour ça que Marine Le Pen choisit l'abstention. Parce qu'elle considère que c'est éviter un piège immédiat qui, si elle votait non à l'accord comme LFI, la classerait dans les amis de Poutine, ce qui est déjà sa marque un peu, et c'est déjà le sceau de l'infamie pour elle. Mais en même temps, elle a évité un piège immédiat, mais elle est tombée dans un piège à moyen terme pour moi. Une candidate à la présidentielle ne s'abstient pas sur un sujet aussi clé. Et d'ailleurs, quand elle prend position sur l'IVG dans la Constitution, un peu contre son gré, en disant « je trouve que c'est inutile, mais je le fais pour rassurer », c'est parce qu'elle sait qu'à un moment donné, quand on est candidat à la présidentielle, on fait le point sur les différentes positions, sur les sujets clés. Et bien là, on regardera abstention sur la guerre en Ukraine, sur le soutien à l'Ukraine. Abstention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Quand on regarde avec une longue focale sur le plan historique, on ne s'abstient pas. On est pour ou on est contre. Mais quand on est dans une période historique clé, et on peut faire allusion évidemment au général de Gaulle, même s'il faut éviter le pathos, mais donc là, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'était effectivement, elle a déjoué, il y a eu une forme d'habileté de sa part, mais en même temps, à terme, ça n'est pas du tout payant.
Certains observateurs de la vie politique disent oui, la poutinophilie du Rassemblement National, évidemment, est liée à l'emprunt contracté auprès d'une banque russe.
Il a été remboursé. Il faut le dire.
Mais certains disent, les banques françaises avaient qu'à prêter, comme ça, ils ne seraient pas allés mendier en Russie.
Non, mais ça, c'est une autre question sur le financement des partis politiques. La vérité, c'est que c'est une position de fond. Alors, je ne parle pas d'LFI, qui, effectivement, votant contre, ne cache pas, c'est d'une certaine façon, être dans les BRICS, être proche des BRICS, et se veut le défenseur du Sud global et justifie cette forme de lâcheté comme ça. Mais pour Marine Le Pen, dans son programme de 2022, elle écrit « Quand la guerre sera finie, nous rétablirons des relations avec Poutine ». Donc en fait, c'est une question de fond, et son anti-américanisme est
d'accord.
Plus fort.
Pardonnez-moi Marc Lambron.
Mon sentiment en ce moment, c'est qu'on est dans une phase de réglage, si j'ose dire, du GPS politique du RN. C'était, est-ce que le RN est dans l'arc républicain ou pas? Est-ce qu'il sera en grande commémoration, en panthéonisation? Est-ce qu'il s'abstient sur Poutine? Est-ce qu'il le soutient encore? Donc il y a comme une sorte de flou artistique qui est en train, avec des lignes qui se précisent de manière parfois un peu erratique.
Moi, je veux bien qu'on en fasse beaucoup sur le Rassemblement National, mais enfin, LFI a voté contre.
Oui.
Que certains se lamentent que le Rassemblement National se soit abstenu, très bien, mais enfin, LFI a voté contre. Alors, comment vous recevez ce vote contre la France Insoumise ?
On se lamente de rien, nous on observe, et on analyse. Mais juste un mot, je finis juste sur l'abstention, parce que c'est vrai que ce qui se passe pour le RN depuis quelque temps, c'est l'évitement. L'évitement du clivage, l'évitement des positions qui choquent, exprès, parce qu'aujourd'hui le RN est devenu une forme de parti attrape-tout, et les sondages et les analyses le montrent. Et il se place de cette façon-là, face à un macronisme dont le socle sociologique se rétrécit. Donc, c'est une preuve de plus de cette stratégie de l'évitement pour essayer de parler à tout le monde et pour se neutraliser en quelque sorte. C'est quand même assez intéressant, parce qu'il faut pas non plus s'y fier. Bon, évidemment, LFI, je vous le dis, c'est très clair, je crois que Marc l'a très bien dit, pro-Poutine, pro-Hamas, avec une provocation et une violence à la fois dans les termes, dans les mots. On parlait de Coco tout à l'heure, la dessinatrice avec
Vega
Ateño. Il y a quand même un tweet de Sofia Chikirou qui dit à la dessinatrice rescapée de Charlie, vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. C'est une forme de ciblage, et c'est extrêmement grave. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, sur LFI, c'est évident. C'est terrible, et c'est un parti du chaos.
Point. Marc Lambron, LFI est-il en train de devenir ce qu'on lui a promis qu'il devenait ?
Je pense que Monsieur Mélenchon, qui a des lettres, a médité le parcours de Marcel Déa, par exemple, et que on peut y trouver des leçons de collaboration.
Alors, il faut quand même dire qui était Marcel Déa, quelqu'un venu du socialiste, un normalien, si j'ai bonne mémoire,
ça arrive.
Qui est devenu un des plus collaborationniste de Paris. Donc, collabo à Paris, c'était déjà collabo, mais alors, collaborationniste zélé, et qui s'est réfugié après la guerre en Espagne, si j'ai bonne mémoire.
Voilà, vous avez un axe Chikirou-Bardella, peut-être, qui se constitue. Intéressant à observer.
Alors bon, pas sur ces questions-là, en l'occurrence, enfin sur le Hamas, c'est-à-dire et sur la Palestine. Dans ce qu'on voit sur LFI, c'est toute une campagne électorale européenne organisée autour de la question de Gaza, en négligeant complètement le 7 octobre, en méprisant les manifestations à l'intérieur de la société israélienne qui proteste contre le gouvernement Netanyahou, en ne faisant aucun cas de la complexité de la situation, mais en tablant sur un calcul cynique électoral qui, évidemment, flirte avec l'antisémitisme dans certains cas.
Marc Lambron, je voudrais qu'on termine par un scandale que vous allez sans doute provoquer, puisque vous êtes académicien, vous êtes quelqu'un qui compte dans le monde de la langue française et des lettres. Et vous allez, dans une seconde, prendre la défense d'Aya Nakamura, qui est pressentie, je dis bien pressentie, parce que rien n'est fait, pour chanter le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Nous vous écoutons.
Eh bien, d'abord, elle est pressentie pour chanter Édith Piaf, et non pas une de ses chansons. Bon, souvenez-vous que en 1989, c'est Jessie Norman, qui était américaine, afro-américaine, comme on dit maintenant, qui avait chanté la Marseillaise. Donc, la chose n'est pas nouvelle. Deuxièmement, ces chansons dont on fait grand cas, je rappelle que les plus grands écrivains, par exemple James Joyce ou William Burroughs, ont inventé des langues et des sortes de carrousels ou de mixtes échevelés de langage. Donc, les grands écrivains l'ont fait avant les chanteurs. Ensuite, je veux dire qu'à l'Académie, nous sommes maintenant, la 9e édition du dictionnaire vient de s'achever, elle est en ligne, nous allons commencer la 10e, et nous interrogeons justement sur les inclusions dans le dictionnaire, les évolutions de la langue française. Et notamment, moi, un mot que M. Mélenchon semble avoir accaparé, mais que je trouve recevable, c'est la créolisation. C'est-à-dire tous les emprunts, tout ce qui vient de la Caraïbe, du Canada, de l'Afrique. Il y a aujourd'hui 320 millions de locuteurs francophones. Il y en aura assez vite 500 millions. C'est-à-dire qu'on va plus réciter La Fontaine à Bamako qu'à Clermont-Ferrand.
Est-ce que vous avez trouvé une traduction à Dja-Dja?
J'ai pas trouvé une traduction à Dja-Dja.
Mais il faut vous y mettre.
Mais attendez, je vais pas faire Dja-Dja, je vais faire Gigi. Je vais vous expliquer. Il y a des mots comme ça qui sont très séduisants, qui surgissent. Par exemple, savez-vous comment au Sénégal on dit copier sur son voisin quand on est à girafé?
Parce que
la girafe a un long cou ça permet de regarder à côté.
C'est joli.
Voilà. Donc moi, j'ai les oreilles ouvertes à l'inventivité linguistique francophone.
Bon, je ne giraferai pas et donc je n'aurai rien à répéter, mais j'approuve ce message.
Bon, c'est quand même un événement, il y aura peut-être une dépêche AFP, mais un académicien, et je ne pense pas qu'il soit le seul, estime qu'Aya Nakamura a sa place dans l'univers de la langue française.
C'est aussi une image.
Elle
est franco-malienne. Mais non, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans son personnage, c'est qu'elle rayonne dans le monde entier, notamment en Afrique, aux Antilles, en Europe. Et juste un petit mot pour finir. Vous savez qu'elle a été numéro 1 aux Pays-Bas. Et la dernière fois que le numéro 1 aux Pays-Bas, dans les chansons, c'était en 1961 avec Édith Piaf. Non, je ne regrette rien.
C'est un rappel utile. Merci Routel Krief. Merci Marc Lambron.
Mal qu'on m'a fait.
Aujourd'hui,
tout ça m'est bien égal.
C'est l'anniversaire et on change de registre. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la création du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, un des plus beaux du répertoire. Créé un 13 mars 1845 à Leipzig. Merci à tous les deux, à la semaine prochaine.